VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 9h en temps universel. Bonjour à tous. Au Niger, l'opposition politique ne se sent pas concernée par la liste électorale remise lundi après-midi à la Commission électorale nationale indépendante pour organiser les élections générales de 2016. L'opposition nigérienne a exigé en vain un audit indépendant international de ce fichier. Avant son adoption, Moussa Idé du MNSD Nassara, principal parti d'opposition.
Vous avez vous-même vu celui qui a dirigé les travaux, c'est un ministre sans portefeuille. Le Premier ministre, sachant qu'il n'y a pas de réalité dedans, il a fait exprès de ne pas venir.
Pourquoi vous n'avez pas assisté à la remise de ce fichier? Parce que c'est avec lui qu'on va aller aux élections.
Oui, mais parce que tout simplement, il n'y a pas eu de consensus. Les textes ont prévu un consensus. Les textes n'ont pas prévu, voilà une majorité, une minorité. Et le fichier, nous avons constaté, a été remis. Dans tous les cas, nous allons aux élections où il n'y a pas d'élection. C'est clair.
Vous ne vous reconnaissez pas à travers ce fichier?
Mais le fichier est faux. On a demandé d'auditer le fichier n'a pas été audité. Est-ce que quelqu'un qui vend des consommables peut auditer un fichier? Nous avons demandé que l'OIF soit là pour auditer ce fichier-là. Le pouvoir a mordicus refusé.
Moussa Idé, le porte-parole de l'opposition nigérienne, au micro de notre correspondant Niamey Abdulrazak Idrissa. Au Nigeria, 6 personnes ont été tuées dans une attaque suicide menée par un enfant kamikaze dans le nord-est du pays imputé au groupe islamiste Boko Haram. C'est ce qu'a indiqué lundi l'armée nigériane. L'attaque a eu lieu dimanche donc à Benershe dans l'état du Borno. Crise sud-soudanaise, une délégation rebelle est arrivée lundi à Juba pour préparer le retour le mois prochain du chef rebelle Riek Machar, et cela en application de l'accord de paix du mois d'août. Les précisions, Timothée Donagnaï.
L'accord signé par le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival et ancien vice-président Riek Machar prévoit un cessez-le-feu, la démilitarisation de Juba, la capitale, l'intégration des forces armées et de la police, de même que la formation d'un gouvernement d'union nationale. Les deux camps se sont mutuellement accusés de violer la dernière trêve comme les précédentes. « Notre arrivée à Juba constitue la fin de cette guerre », a déclaré le principal négociateur rebelle, Tabang Deng, ajoutant que l'arrivée du chef rebelle Riek Machar dans la capitale interviendra en janvier. Quelques 600 dirigeants rebelles sont attendus à Juba ce mois-ci. Le porte-parole rebelle James Gaddet, que cite l'agence Associated Press, a indiqué de son côté que la mise en place du gouvernement d'union nationale interviendra d'ici le 22 janvier. Le conflit sud-soudanais, qui a éclaté à la mi-décembre 2013, a fait des milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés et de réfugiés.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Les deux chambres du Parlement burundais réunies en congrès extraordinaire hier ont appelé le gouvernement à préserver la souveraineté du Burundi, dénonçant l'annonce par l'Union africaine du déploiement d'une mission de maintien de la paix dans ce pays, englué dans une grave crise politique depuis 8 mois. Dans sa déclaration finale, le congrès a exhorté le gouvernement burundais à ne pas hypothéquer la souveraineté du pays en cédant à l'Union africaine. Il a aussi rappelé le principe de non-ingérence d'un État membre de l'UA dans les affaires intérieures d'un autre membre. L'Union européenne a renouvelé jusqu'au 31 juillet prochain les sanctions prises à l'encontre de Moscou à cause de son implication dans la crise en Ukraine. En dépit d'une trêve signée plus tôt cette année, le gouvernement ukrainien affirme ne pas avoir le contrôle de sa frontière avec la Russie. Le Parlement russe avait approuvé en mars 2014 l'annexion de la Crimée quelques semaines seulement, après que des manifestations pro-occidentales à Kiev eurent forcé le départ du président Viktor Yanukovych, soutenu par les Russes. Enfin, en Chine, un premier corps a été retiré aujourd'hui de l'énorme amas de terre et de boue qui s'est abattu dimanche sur une zone industrielle de Shenzhen, dans le sud du pays. Un nouveau décompte des autorités a établi lundi soir à 81 contre 91 précédemment. Le nombre de personnes enfouies depuis 2 jours sous terre, le corps dégagé ce mardi en Chine, est la première mort confirmée de ce désastre. Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochain rendez-vous donc dans environ 1 heure. À tout à l'heure sur la même station.
Soyez au cœur de l'info.